Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Philippe Poutou, qui est le candidat du nouveau parti anticapitaliste à l'élection présidentielle.
Et bonjour Philippe Poutou.
Bonjour.
Merci beaucoup à vous d'être en direct du bureau RTL de Lyon. Vous étiez hier soir à une réunion à Vénissieux. Il y avait du monde? Combien de personnes, Philippe Poutou?
Oui, il y avait du monde. Enfin, pour nous, il y avait du monde. On était plus de 600, entre 600 et 700. Ouais. Donc pour nous, c'est des très bons chiffres.
S'il y a un effet débat télé, il y a un avant et un après dans vos meetings?
Oui, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se passe depuis ce moment-là. Ça avait commencé un petit peu avant. De toute façon, nous, dès qu'on a un petit peu de médiatisation, ça nous aide évidemment à nous faire connaître, à nous faire entendre. Et puis, du coup, il y a un public qui est plus nombreux à venir nous voir. Donc, c'est logique aussi.
Mais à propos de médiatisation, Philippe Poutou, on parle de vous aussi avec vos clips de campagne qui, en l'occurrence, on a beaucoup parlé de celui qui parodie On n'est pas couché. Déjà, en 2012, vous aviez utilisé ce deuxième degré. Mais est-ce que vous ne sacrifiez pas quand même la forme au fond?
On sait pas, de toute façon, on sait que les clips de campagne, en règle générale, c'est plutôt chiant. Et chiant pour ceux qui écoutent et puis aussi pour ceux qui font. Alors nous, on essaie au moins déjà de faire des formes un peu différentes.
Au moins de vous amuser, vous.
Puis même en même temps, et chercher une façon de dire les choses, quoi. C'est pas si simple que ça. Ça veut pas dire qu'on réussit. Ça veut pas dire que quand on utilise un ton décalé ou humoristique, c'est forcément bien fait. Mais bon, en tout cas, on essaie ça, on cherche. Et puis c'est vrai que c'est plus intéressant à faire, du coup. Et on espère quand même, malgré tout, qu'on arrive à toucher. Et c'est vrai que le premier clip, on peut toujours dire qu'il n'y a pas grand chose de politique, c'est une façon de commencer les choses.
Vous parodiez l'arrogance médiatique.
Oui, enfin, voilà,
en tout cas, vous sentez comme de l'arrogance médiatique, mais il
n'y
a pas de message programmatique. On retient aucun message, aucune idée du parti NPA.
Peut-être vous reconnaissez, vous retenez pas grand chose, mais il y a des gens, en tout cas, on a eu des retours quand même en partie positifs. Voilà, il y a aussi des messages comme ça qui ne sont pas juste un programme politique, c'est aussi qui on est, comment on est, et c'est aussi important de montrer que la politique, ça peut être autre chose. Et puis, nous, on n'est pas des politicien professionnel, on le revendique.
Vous êtes quoi? Vous êtes un amateur de la politique?
On est des salariés, des gens d'en bas, on fait de la politique justement bénévolement, et puis c'est aussi l'envie de dire qu'on a intérêt à, en tout cas nous, faire de la politique, à prendre nos affaires en main. C'est tout ça qu'on essaie de formuler, qu'on essaie d'expliquer à travers les clips notamment, mais pas que les clips, c'est ce qu'on essaie de dire partout où on est. Donc voilà, c'est important, et je pense que le message y passe quand même d'une certaine manière, et que du côté de la population, du côté des gens qui nous entourent, il y a aussi une satisfaction de voir ça. Et puis
Une certaine fierté, vous dites,
d'avoir
ce type de ton et de percer le barrage médiatique. On veut faire savoir qui on est. Alors vous, on le rappelle, c'est votre deuxième élection présidentielle. Vous travaillez chez Ford depuis des années en Gironde. Vous l'avez dit, donc je le répète, vous gagnez 2000 euros net, dont une partie est payée par le parti, si je puis dire.
Oui, je suis à 20%. Un jour par semaine, je suis payé par le NPA, en temps normal, parce que là, je suis en suspension de contrat pour les 5 semaines de campagne.
Oui, là, vous êtes en congé sans solde.
Tout à fait. Donc la Ford ne paye plus rien, c'est le NPA qui paye tout mon salaire.
À propos de l'usine Ford, les ouvriers, vous le savez, ne votent pas, ou quand ils votent Marine Le Pen. D'abord, dans votre usine, vous en parlez? Vous parlez à ces ouvriers qui ont choisi le Front National?
Bien sûr, quand on discute de tout ça, c'est pas forcément facile de discuter de politique. Parce que les gens sont résignés, écœurés, donc en fait ça fait partie des sujets souvent qui sont rejetés. Mais on y arrive quand même, évidemment, parce qu'il y a l'actualité, parce qu'il y a ce qu'on subit, et il y a le ras-le-bol qui existe. Donc,
Essayez de les convaincre.
Il y a de tout parmi les collègues. Il y a évidemment ceux qui s'abstiennent, ou ceux qui n'ont jamais voté même, ou ceux qui ne sont pas inscrits, et puis qui ne vont pas voter ce coup-ci. Enfin, donc tout ça, on l'entend. Et puis il y a ceux qui votent un peu tout. Il y a des gens qui votent encore à gauche, du côté de Mélenchon, ou même du côté de nous. Et puis il y a ceux, évidemment, qui sont attirés, ou qui ont déjà fait, ou qui se posent la question de voter Le Pen. Mais ça se dit pas, en fait.
Mais pourquoi l'utopie révolutionnaire, ça marche moins que les idées du FN?
En règle générale, l'utopie révolutionnaire, ça marche qu'au moment des périodes révolutionnaires, des périodes de contestation sociale profonde.
Par définition.
C'est ça. C'est
la révolution, contester
la société ou dénoncer la société, c'est une idée qui peut circuler ou qui peut être apprécié, mais de là on s'en emparer, quand on s'en empare, ça se voit, c'est qu'il y a des luttes sociales. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on est à contre-courant de cette manière-là, ou en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un climat de résignation, un sentiment d'impuissance, et c'est dans ce contexte-là que c'est difficile d'expliquer.
Mais qu'est-ce qui marche aujourd'hui, c'est plus facile. Le discours anti-Europe, le discours anti-immigration, FN est perçu comme le plus à même à redistribuer les richesses. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui vous frappe?
Le FN n'est pas du tout perçu comme redistribuant les richesses, de toute façon, il n'en parle pas. Mais non, mais il y a une forme de colère, de ras-le-bol qui s'exprime de cette manière-là. Mais comme ceux qui vont pas voter l'expriment aussi. Donc c'est là quand on est un peu, c'est aussi l'expression du désarroi. Il y a un ras-le-bol, un écœurement, tout ça se mélange sans trop d'espoir. Et finalement après, c'est les discours qui peuvent être justement ceux qui se retournent contre les immigrés, des discours de haine, des discours xénophobes qui peuvent marcher parce que il y a aussi cette idée qui est simpliste, mais de penser que finalement s'il y avait moins d'immigrés, ça irait mieux. Et ça marche, c'est vrai. Ça... Alors après, nous on essaie de discuter, d'expliquer, de raisonner collectivement et de montrer que finalement s'il y a une crise, s'il y a du chômage, de la précarité, c'est aussi la responsabilité de ceux qui dirigent le système économique.
Alors,
donc c'est essayer d'avoir le discours anticapitaliste.
On va y aller. Anticapitaliste. Vous êtes contre le profit des entreprises?
Ben évidemment, on est contre ce profit qui s'accumule entre les mains d'une poignée puis qui sert juste à les enrichir.
Mais les entreprises, elles peuvent faire du profit ou ce que vous contestez, c'est que, par exemple, les patrons distribuent des dividendes. Ben oui, mais les entreprises, elles doivent bien produire de la richesse.
Non, mais là, c'est tout le fond du fonctionnement du système capitaliste. Aujourd'hui, l'économie, ça sert, c'est produire des richesses et qui sont détournées entre les mains d'une minorité. C'est pas l'économie se pose pas le problème de comment on peut répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, ça passe par l'exploitation du travail et c'est ça l'enrichissement des capitalistes. C'est parce qu'ils utilisent le travail des autres et qu'ils arrivent à en détourner les richesses produites. Donc nous, ce qu'on discute, c'est comment est-ce qu'on peut pas faire une économie qui fonctionne différemment, qui répond aux besoins des populations. Et c'est pour ça que nous on discute d'un contrôle de l'économie. De toute façon, le capitalisme, il montre son incapacité à répondre aux besoins de la population. Il montre qu'il est catastrophique, catastrophique socialement, catastrophique au niveau de l'environnement. Attendez, catastrophique au niveau de l'environnement. On voit bien la planète qui est en danger. Et puis, il y a aussi un monde de guerre, un monde de massacre, de dictature.
Alors, justement, bon,
c'est tout ça.
Philippe Poutou,
du coup, ça paraît légitime. Attendez, je finis juste un truc parce que c'est toujours compliqué d'aller au bout d'une idée. Moi aussi, je veux rebondir. C'est d'aller au bout d'une idée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'il y a ce système capitaliste qui est catastrophique, le problème est posé d'une nouvelle organisation économique. Et ça, c'est au centre de la discussion quand même. On peut aussi dire que pourquoi on ne pourrait pas faire une économie différente. Et donc, ça pose le problème de qui dirige l'économie, de qui possède. Et nous, on pense que la population devrait contrôler l'économie. Elle devrait pouvoir décider de ce qui est produit, de comment c'est produit. Et c'est pour ça que du coup, ça remet en cause cette logique de course au profit, cette logique de rentabilité.
Alors, par exemple, une entreprise, et il y a des entreprises qui ne distribuent pas de dividendes, qui réinvestissent dans l'appareil productif, dans l'amélioration des normes environnementales, qui font attention à l'échelle des salaires. Est-ce que celles-là, elles vous paraissent dignes de ne pas être confisquées, de rester dans le secteur privé avec un fonctionnement qui, finalement, veille à ce que les salariés aussi s'épanouissent?
Voilà, après, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est aussi aux salariés de pouvoir décider de ces choses-là. Mais nous, ce qu'on dit, évidemment, c'est que ce sont les grands secteurs de l'économie qui doivent être expropriés, réquisitionnés.
Les banques.
Nous, on parle des banques, évidemment. Ouais. Ça, c'est un secteur clé. Tout le secteur bancaire doit être exproprié sans indemnisation. Et puis, ça doit être sous contrôle des salariés, en faire un véritable service public bancaire. Après, il y a le secteur de l'énergie aussi, des Total, toutes ces grosses entreprises doivent être expropriées. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de libérer l'économie des mains des capitalistes. Parce qu'aujourd'hui, ils nuisent.
Mais elles vont partir, les sièges des grandes entreprises vont aller s'installer ailleurs, elles paieront plus d'impôts.
Ce que vous dites, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment le truc, la légende. Ils vont partir. Si les banques, c'est exproprié, si ça, c'est sous contrôle des salariés, c'est plus pareil pour l'argent. Ça sert
mais alors,
plus
comment
de la
vous
même
faites
manière. L'idée, c'est qu'une population puisse contrôler tout ça et contrôler les richesses. Et les richesses, c'est pas que des capitaux qui circulent, c'est aussi tout ce qui produit les richesses aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est important. C'est cette idée d'une économie planifiée, socialisée, sous contrôle de la population. Et même si aujourd'hui, ça paraît évidemment utopique parce qu'on est loin du compte. Mais quand on voit le système capitaliste qu'il est capable de faire, c'est là où il y a une urgence à discuter d'un autre système économique.
D'accord. Vous proposez que tous les jeunes aient un salaire d'autonomie à partir de 16 ans. Un SMIG que vous augmentez de toute façon à 1 700 € net pour tout le monde et aussi pour les jeunes. Et ces jeunes, à partir de 16 ans, toucheront ce SMIG jusqu'à leur premier emploi. Comment ça marche ? Jusqu'à quel âge ?
C'est l'idée de fond, c'est encore une fois, c'est la répartition des richesses. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des fortunes, des milliards de profits d'un côté, des actionnaires, de la fraude fiscale et tout ça. Donc l'idée, c'est que toute cette richesse qui existe, comment elle peut être redistribuée de manière à ce que ce soit l'ensemble de la population qui en profite et qui vive décemment. Donc ça pose
un
problème.
Donc c'est un revenu universel pour les jeunes.
Le problème, c'est ça, c'est d'assurer. Il faut que la société soit capable d'assurer un minimum un revenu décent à l'ensemble de la population. Donc ça concerne plus particulièrement les jeunes qui puissent avoir d'avoir un pré-salaire de manière à ce qu'ils puissent étudier dans des bonnes conditions. Mais après, ça pose le problème aussi pour l'ensemble.
C'est quand ils font des études. S'ils ont fini leurs études, ils n'ont plus ce SMIG.
Mais pour ceux qui sont étudiants, il faut un pré-salaire qui leur permette d'étudier dans des bonnes conditions. Parce que là, aujourd'hui, les familles riches ils peuvent étudier sans être obligés d'aller travailler. Mais la plupart des étudiants aujourd'hui sont obligés d'aller travailler, des fois dans des conditions très, très difficiles, très précaires. Et ce qui complique évidemment la vie étudiante. Donc, c'est essayer de trouver des solutions, de comment faire en sorte qu'il y ait une véritable égalité, que l'ensemble des jeunes puissent étudier normalement. Mais après, il y a la question aussi de la jeunesse qui est précaire aujourd'hui, qui galère. Donc, c'est la question de l'apprentissage. D'accord. Nous, on pense que l'apprentissage doit être un revenu payé à SMIC à 100%, pas comme c'est le cas aujourd'hui. Mais en fait, globalement, c'est comment aujourd'hui la société permet à l'ensemble de la population de vivre correctement. Donc, c'est la question d'un revenu et d'un salaire garanti, évidemment. Et puis, c'est la question aussi d'un service public du logement qui permet aux gens de se loger correctement. C'est la question aussi d'un service public de la santé qui permet un accès gratuit à la santé pour l'ensemble de la population. C'est tout ça. C'est qu'on pense que la société, elle est riche de tout ça. Il y a de la production, il y a un progrès technique, un progrès scientifique. Et tant de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Et ce qui est complètement dingue, c'est que finalement, permettre aux gens de bosser normalement ou d'avoir un revenu décent ou de vivre normalement, ça, on ne peut pas le faire. Donc, c'est ça qu'il faut remettre en cause.
Vous parlez toujours aussi vite, Philippe Poutou.
Oui,
en une minute, vous dites deux fois plus de mots que Fillon ou Macron. Hein.
Ouais,
c'est un sentiment d'urgence parce que c'est l'élection, c'est la deuxième fois. Entre les élections présidentielles, pourquoi vous ne présentez pas une élection locale? Vous n'avez pas envie de peser sur le quotidien, modestement, des Français? Ça ne sert à rien.
Ben visiblement, vous ne savez pas du tout ce que je fais entre deux élections, mais ça c'est normal. On voit bien que personne ne s'intéresse à ça, mais j'ai fait les élections municipales, législatives, j'ai tout fait. J'ai tout fait et j'ai tout perdu.
Mais,
voilà, donc,
le NPA est présent dans toutes les élections.
Vous avez des candidats pour les législatives? On s'en occupe au moment où il faut s'en occuper. C'est-à-dire qu'on n'en est pas du tout là, mais il y aura des candidats NPA aux législatives et on est présent dans les municipales, évidemment dans la mesure de nos forces, là où on est implanté. On se présente là où on milite, là où on a des équipes militantes, mais évidemment qu'on se présente partout et qu'on fait de la politique au quotidien. Que le NPA, c'est un parti qui est présent en permanence sur le territoire.
Allez, encore une idée dans votre programme, ça a été relevé plusieurs fois, je voudrais vous le faire préciser. On lit qu'en matière de sécurité, vous prenez le désarmement de la police. Toute la police dans toutes les opérations? Non.
Au moins la police qui est au contact de la population.
Comme les bobbies anglais.
Oui, nous surtout, c'est que là aussi, on répond à un problème politique qui nous est posé, c'est qu'il y a un engrenage de violence. On nous explique que pour combattre même le terrorisme, ce qui est complètement dingue, c'est que c'est pas parce qu'il y aura plus de policiers dans la rue qu'on combattra le terrorisme. C'est des problèmes beaucoup plus compliqués que ça. Hein, c'est d'abord déjà des questions de politique internationale, d'intervention militaire complètement inutile qui sont catastrophiques pour les peuples. Mais aussi cette question de vente d'armes à des dictatures comme l'Égypte, Qatar, Arabie Saoudite. Donc il y a tout ça qu'il faudrait discuter. Mais sinon, oui, en France, on voit bien que la violence aujourd'hui, de la répression, elle ne sert à rien. Et nous, on discute qu'il faut des réponses sociales. Il faut développer les services publics, il faut de l'emploi, il faut assurer un logement correct pour l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faudrait, c'est ces réponses-là par rapport à la crise, par rapport à la précarité. Mmh. Et nous, quand on nous explique qu'il faut plus de policiers, plus d'armement, on voit bien ce qui se passe aux États-Unis, on voit bien qu'il y a des engrenages très dangereux.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de policiers qui se sentent menacés, hein, et parfois juste titre.
Mais oui, mais c'est ça l'engrenage de la violence, c'est que plus ils seront violents, plus il y aura de la menace.
Donc
On le voit aux États-Unis, on voit la différence entre la police anglaise et la police américaine. Les résultats et les chiffres sont comme. Ben oui, parce que la police anglaise, elle est moins victime de violence et la police suédoise, norvégienne. Donc c'est tout ça aussi. C'est pour ça qu'on croit que finalement, la violence, ça résout tout. Ben non, c'est tout le contraire. C'est discuter social et discuter de réponses politiques.
Philippe Poutou, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce matin parce que pour tout dire, je le confie aux auditeurs d'RTL, vous avez failli annuler parce que vous êtes fatigué. Le rythme est rude cette année?
Non, c'est pas parce que je suis fatigué, c'est que là, je suis à Lyon. Et je ne pouvais pas être à Paris ce matin.
Ah bon,
donc là, vous avez trouvé une solution, effectivement. Et là, quand vous avez des solutions techniques, il n'y a pas de problème.
Donc, vous ne frôlez pas la surchauffe. Il y a certains candidats qui trouvent que le rythme est compliqué cette année.
Oui, c'est vrai. On voit que Fillon est très fatigué et qu'il lui tarde la fin. Mais nous, non, ça va. On est encore motivés. On a 10 jours et on va jusqu'au bout.
Si vous n'êtes pas qualifié, la première chose que vous ferez le 23 avril, une question que je pose à tous les candidats qui passent le grand oral sur RTL.
Est-ce qu'on se fait.
Vous, personnellement?
Eh bien, ça dépend du deuxième tour. Eh bien, on verra bien. On fera le point à ce moment-là. Qui c'est qui est qualifié au deuxième tour? Quels sont les scores? Dans quelle situation on se
Macron,
trouve?
Macron, Mélenchon, Fillon.
On verra ça. S'il y a des surprises ou
plutôt
pas.
Plutôt pour Mélenchon, avez-vous dit?
Oui, bien sûr. Ça paraît un peu logique. Mais là, pour l'instant, il y a cette question du premier tour, d'aller jusqu'au bout, de défendre nos idées. Et puis même cette idée que le combat contre l'extrême droite, parce qu'on va se retrouver dans cette situation-là, c'est un combat de tous les jours aujourd'hui. Et donc, voilà. Surtout la perspective, ce sont des luttes sociales pour nous.
Bonne fin de campagne.
Merci.
Philippe Poutou, qui parle plus vite que son ombre et qui était en direct ce matin sur RTL dans le bureau de Lyon, aux côtés de Frédéric Perruche, que je remercie aussi. Merci à vous, Philippe Poutou.